On est en train d'étudier l'Épître aux Galates. On est en train de faire une étude en s'arrêtant plus en profondeur sur les versets. Puis qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait nous faire sortir dans cet enseignement-là? Parce que, à remarquer, toutes les épîtres sont bonnes. On pourrait prendre n'importe quelle épître. Mais j'ai prié le Seigneur, puis il m'a montré que c'était celle-là, fallait qu'on parle. Puis le sujet qu'il y a là-dedans, dans le sujet que ça traite, pour vous mettre un peu dans le contexte, dans ceux qui n'étaient pas là dans les leçons antérieures, l'apôtre Paul a envoyé une lettre aux églises de la Galatie. Il y avait plusieurs églises. La Galatie, c'est un territoire dans la Turquie. Puis c'était tout fondé par l'apôtre Paul qui avait fait de l'évangélisation, puis il avait ouvert ces églises-là. Il avait mis des anciens. Puis au bout d'un certain temps... Puis l'Église aussi, faut savoir qu'elle était formée de juifs et de païens. Mais au bout d'un certain temps, il y a des gens qui voulaient ramener l'Église à croire qu'il fallait absolument passer par se faire circoncire et commencer à repratiquer la loi de Moïse. Tout au complet, ils voulaient revenir à tout ce qui était écrit là. On parle pas des commandements seulement, mais eux autres voulaient retourner à toute la loi, puis qu'ils disaient que c'était nécessaire pour le salut. Mais l'apôtre Paul, dans sa lettre, tout de suite, il a ramené le focus sur dire que le salut est en Jésus-Christ, puis Jésus-Christ crucifié. C'est son sacrifice à la croix qui nous permet d'être sauvés. C'est pas la loi de Moïse. Fait que toute la lettre est dans ce sens-là pour qu'on comprenne la différence entre la loi de Moïse puis la foi en Jésus-Christ. Ça veut pas dire que la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas de loi, mais c'est pas la loi de Moïse, les enseignements, puis les rituels, puis toutes les affaires qu'il y a là. On est en train de regarder, on est rendu au verset 8 et 9 qu'on va voir ce soir dans Galates. J'ai pas sorti les versets, j'y ai même pas pensé. Mais ceux qui ont des Bibles, j'encourage à les sortir. On continue toujours dans l'optique que le salut est par la foi dans l'Évangile. Puis l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Savoir que Jésus y est venu, puis il est mort sur la croix, puis il est ressuscité, puis il est apparu à des gens pour montrer qu'il a donné une preuve qu'il était ressuscité. Puis le salut est dans le sacrifice de Jésus. Puis l'apôtre Paul, on va voir tout le long de la lettre, c'est dans le but de rectifier le tir pour amener les gens, les auditeurs, à croire dans la foi en Jésus seul. Au verset 8, on est rendu au verset 8, Paul y affirme que personne n'a le droit de modifier le contenu du message de l'Évangile sans des conséquences très graves. On peut pas se permettre de modifier les enseignements. Ils sont donnés tels quels. Ce qui est écrit là, on n'a pas le droit d'en ajouter puis ni de l'enlever. On doit prendre ce qu'il y a là, point. Dans Galates 1:8, l'apôtre Paul, il était rendu à dire, quand nous-mêmes, là, il se présente comme un apôtre, quand même les apôtres, là, quand même un ange du ciel, il annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. On voit là-dedans le sérieux de l'histoire, Paul ne rit pas de cela. Ce qui est en train de se passer là, dans cette église-là, qui est en train de retourner à croire à la loi de Moïse pour le salut, c'est grave. C'est archi grave. C'est comme n'importe quelle autre religion qui change les choses de la Bible. Au lieu de prendre le Nouveau Testament tel quel, c'est qu'ils rajoutent des lois d'église, puis ils retranchent des idées, comme ça je crois pas à ça, ça je crois pas à ça, puis on commence à modifier. Il dit même nous-mêmes, un apôtre, puis on le sait, parce que Paul y insiste en disant que lui-même en tant qu'apôtre, puis même un ange de Dieu n'a le droit de la modifier. Les apôtres, pourtant, on le sait, on va le voir même dans un verset, que si on croit en Jésus, c'est à cause que notre foi est basée sur les enseignements des apôtres. Mais même les premiers apôtres, ceux qui ont établi les bases de la foi, il ramenait les enseignements de Jésus, puis il expliquait ça plus en profondeur, mais il restait toujours dans l'enseignement de Jésus. Il dit, même s'il y aurait un apôtre dans la gang, lui-même ou un autre apôtre qui commencerait à vouloir dériver, puis faire dire ce que Jésus a pas dit, puis d'en ajouter, puis d'enlever, puis sortir des écrits aussi des prophètes qui annonçaient les choses, mais t'es en train de prendre le chemin qui te mène à la perdition pour être considéré anathème. On va le voir tantôt ce que ça veut dire anathème. Ça veut dire que même 2000 ans plus tard, c'est la même idée. Ça n'a pas changé. Il n'y a aucun être humain sur la terre n'a l'autorité ou le pouvoir d'ajouter des lois d'Église ou des enseignements d'Église, se partir une religion en prenant des idées de la Bible, mais en mettant plus ou en retranchant. C'était pas juste pour ce temps-là, c'est encore valable aujourd'hui. Personne n'a le droit de modifier ce qui est écrit là sans risquer d'être devenu anathème devant Dieu. C'est grave, même si ce serait une super église, une grosse église, la plus grosse église de tout qu'il n'y a pas sur la planète, même si ce serait ça, si tu commences à prêcher des faussetés, à sortir de ce qui est écrit, tu es en train de devenir anathème, puis peut-être entraîner d'autres personnes à le devenir. C'est pour ça que c'est sérieux, frères et sœurs, de baser notre foi, de bâtir sur le roc que Jésus dit. C'est quoi le roc? Mais c'est sa parole. C'est sa parole. Il faut bâtir sur Jésus, mais sur sa parole. C'est ses enseignements. Et Jésus leur reprochait à du monde qui vivait des dons spirituels. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, puis ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Il dit, « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait des miracles? » Jésus, c'est pas ça qu'il regarde en premier. Ça, c'est accessoire, les miracles. Ce qu'il regarde, c'est que t'es-tu une personne qui a bâti dans l'obéissance à sa parole. C'est ça qu'il regarde. Il dit, vous êtes des ouvriers d'iniquité, des ouvriers de péché. Parce que si on désobéit à la parole, on est des pécheurs. Les ouvriers d'iniquité, Jésus, il reconnaît plus cela. Il les accepte pas avec lui. C'est ça que... Même si on est 2000 ans plus tard, faut rester à ce qui est écrit là, puis pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tiens, on mène à quelque part. Nous ne devons jamais oublier que l'Évangile ne nous appartient pas. Elle a été donnée par Dieu. C'est Dieu qui a donné cette révélation-là. C'est pas nous, c'est pas un humain qui a parti ça à un moment donné par ses propres idées. C'est Dieu qui est descendu du ciel. Jésus, c'est Dieu qui est descendu du ciel puis est venu nous dire ce qu'il en était. C'est une alliance que lui a mis sur place, qu'il a mis en place pour pouvoir amener des gens à être sauvés en regardant lui. 1 Pierre 1:25, ça nous dit, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La Bible, l'Évangile, le message du salut, puis tous les enseignements, là, c'était donné par le Seigneur. C'est la parole du Seigneur. C'est pas la parole d'un homme, puis on va le revoir plus loin dans d'autres versets la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais pour là, la parole qu'on a entendue, ça demeure éternellement. Ça veut dire qu'il n'y a jamais été question dans le plan de Dieu qu'elle soit modifiée. Faut que ça demeure éternellement dans notre pensée. Il faut croire que c'est éternel, puis qu'on n'a pas l'autorité de la modifier. Même si un apôtre, quelqu'un qui se nomme apôtre, là, aujourd'hui il y en a une couple, puis qui viendra dire, oh là, on sait vrai, mais ça, c'était dans ce temps-là, puis ça, c'est aujourd'hui, on est une église moderne, puis nous, on change ça à notre manière de voir, on suit les modes, on suit les traditions, on suit l'évolution. Oh, le Saint-Esprit me dit, oh, un ange de Dieu me dit, ça arrivera pas de venant de Dieu. La seule manière que ça pourra changer, c'est si Jésus lui-même reviendra du ciel, puis lui dira, j'ai déjà dit ça, Master, je dis ça. Mais ça arrivera pas parce que ça n'a pas été annoncé qu'il reviendra changer quoi que ce soit. C'est ça. Dieu ne change pas, puis Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, ça va se faire, ça va s'accomplir comme ça a été dit. Puis ce qu'il nous a demandé de croire et de mettre en pratique, ça demeure éternellement.
On n'a même pas à essayer parce que c'est écrit que l'Évangile est un Évangile éternel.
C'est ça qu'on vient de dire dans ce verset-là. La parole du Seigneur demeure éternellement, puis cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.
Est-ce qu'on peut dire que l'Ancien Testament est l'Évangile aussi?
Non, c'est une autre alliance. Nous autres, le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance dans l'Évangile, tandis que l'Ancien Testament, c'est une ancienne alliance avec le peuple juif. Il y avait une manière pour être sauvé là-dedans dans l'Ancienne Alliance. Mais c'était pas la même façon. C'était d'être sauvé par les œuvres, puis en faisant des sacrifices d'animaux pour être pardonné, puis tout cela. Mais tout cela, il s'est expliqué dans Hébreux puis dans d'autres passages que c'était inutile, puis ça l'amenait pas personne à la perfection. Puis c'est impossible que le sang des taureaux enlève les péchés. Puis que ça amène les gens à vivre à être déclarés saints. Mais c'est juste le sang de Jésus. Mais tout était comme une préparation pour amener le monde à croire en Jésus. Il y a là-dedans, t'apprenais que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, c'était la même idée que Dieu a repris, mais c'était le sang de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Fait que, puis ça, c'est dans un sens de dire que la parole de Dieu demeure éternellement. C'est béni, c'est bien que ça soit comme cela. On voit là-dedans que Dieu n'est pas injuste. Ce qu'il a demandé comme critère à ses apôtres, il y a 2000 ans, c'est encore les mêmes critères dans 2000 ans plus tard. L'Évangile n'a pas changé. C'est la même, Dieu a les mêmes exigences pour les gens de ce temps-là que les gens d'aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Il demande encore la repentance, puis la conversion à Jésus avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est encore les mêmes affaires, puis la loi de Christ est expliquée dans ce temps-là, puis elle l'est encore aujourd'hui. Tout ce que Jésus a dit, comme sur, mettons, le sermon sur la montagne, tendre l'autre joue, faire un autre mille avec celui qui te demande, donne ta tunique, pardonne, puis tous les enseignements que Jésus a donnés aux gens de ce temps-là, c'est encore les mêmes enseignements aujourd'hui. Il n'y a pas de page qu'on peut arracher. Faut comprendre que l'Évangile, elle n'a pas changé, puis le message qu'il y avait dans ce temps-là qui a été dit par Paul à l'église des Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 1, à partir du verset 6, on va voir là-dedans que l'Évangile, elle sert à sauver, est éternel, elle sert à sauver, mais elle amène aussi la condamnation de l'humanité basée par l'Évangile. On voit ça dans 2 Thessaloniciens 1, 6 à 9. Je vais vous le lire rapidement. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, il revient, là, il va revenir du ciel pour punir ceux qui connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. » C'est à même dans ce temps-là, il nous a dit ça dans ce temps-là, puis c'est encore pareil aujourd'hui. Quand Jésus va revenir, il va revenir pour punir ceux qui connaissent pas Dieu puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est grave. Si quelqu'un veut pas obéir à l'Évangile, puis de se repentir, puis de se tourner vers le Seigneur, se convertir au Seigneur, vouloir produire du fruit par l'assistance du Seigneur, tu veux pas vivre la vie du Seigneur, mais quand Jésus va revenir, ça va être pour punir. Le jugement, ça va être une ruine éternelle pour ces gens-là. Il n'y a pas de seconde chance ou il n'y a pas d'autre manière que d'être sauvé que par l'Évangile. Tu y crois, t'adhères. Si tu y crois pas, tu laisses passer, mais il y a des conséquences. Mais comme Paul essaie d'expliquer aussi, c'est que tu y crois, t'adhères, mais tu gardes ce qui est écrit sans en changer. Parce que là, tu vas devenir un anathème. Un excommunié, un débarqué de la traque. C'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'on ne peut pas la modifier. Elle demeure éternellement. L'Évangile est parfaite pour sauver, puis est parfaite aussi pour condamner. La première question que Dieu va demander aux gens, « Qu'as-tu fait du sang de mon Fils? » Qu'est-ce que tu as fait de cela? J'avais pas le temps. Je venais de me marier. On trouve toutes sortes d'excuses pour essayer de dire j'avais raison de pas aller vers le sang de Jésus pour être purifié. C'était la seule bouée de sauvetage que Dieu nous a donnée. On peut pas passer à côté de cela. C'est pour ça qu'il est obligé de ramener cela aux Galates pour leur dire, allez pas penser que c'est par la loi que j'allais être sauvé. C'est par le sang de Jésus. Gardez la foi dans l'Évangile. La Bible nous enseigne que nous devons le retenir tel qu'il a été annoncé. Dans 1 Corinthiens, je l'ai lu l'autre jour, dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 et 2, il dit, « Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, tu n'as pas le droit de la modifier. Si tu ne le retiens pas tel qu'il a été annoncé, tu penses que ça serait meilleur ou mieux si on en rajoute ou si on en enlève, tu es en train de passer à côté du plan du salut pour ta vie. Tu n'as pas le droit. Dieu voit la foi dans notre obéissance en ce qui est écrit. Il nous demande des affaires. Amen, merci Seigneur, c'est écrit ça, on fait cela. Même si les autres ne veulent plus le faire, c'est leur problème. Nous, on doit essayer d'amener le monde à obéir à ce qui est écrit. Amen.
Amen.
Nous allons paraître devant lui, devant Jésus, saints et sans reproche. C'est fort, c'est quelque chose. Ça, c'est à cause de l'Évangile. Si on demeure fondé et inébranlable dans la foi sans nous en détourner, tu n'as pas le droit de t'en détourner. On voit ça dans Colossiens 1, 21 et à 23. Ça nous dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. » Puis là, il y a encore une condition. « Si, du moins, vous demeurez fondés. » Fondé, là, savez-vous que ça veut dire, fondé? Une fondue. Quand t'es fondu, t'es imprégné. Mettons que t'as un bol de plomb. Ben, tu prends un lingot de plomb, tu le mets dedans, là, puis c'est pas long que le lingot, il remplit le plat, puis c'est fondu. C'est homogène avec le reste. Ben, être fondé dans la parole de Dieu, en Jésus, ou garder une foi, tu sais, ancré. Tu rentres dedans, hein? Ça aussi l'idée de la fondation pour la forme, mais fondé, il y a une fondue que t'es rendu qu'un avec, puis tu peux plus t'en sortir. Tu veux plus t'en sortir. T'es rentré dedans.
Enraciné,
c'est un autre mot de synonyme dans les mêmes idées. Tu rentres dedans. Fondé, là, il y a la fondation, c'est un autre bon point, parce que un mot peut vouloir dire plusieurs sens, mais tu ne sors pas de là. Tu es complètement dedans. Tu es bâti dessus. Mais il dit, si vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu puis qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été féministe. Mais voyez-vous encore, tous ces versets-là amplifient l'idée de l'importance de l'Évangile. Il dit, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. C'est un message qui est précis, puis tout se passe à travers Jésus. Jésus, Jésus crucifié. C'est pour ça que l'apôtre Paul n'a pas insisté juste avec les Galates, il a insisté aussi dans les autres épîtres à ramener la même idée. Demeurez ferme, puis persévérez là-dedans, lâchez pas, puis approfondissez votre relation avec le Seigneur. Au verset 9, là on a lu le verset 8, Paul, il reprend l'idée que si quelqu'un, quiconque annonce un autre évangile, regardez bien, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si, puis on voit, il l'a dit précédemment, c'était pas la première fois qu'il le disait. Puis c'est pas aux seules personnes qu'il l'a dit. Ça devait être un sujet de prédication qui était dans toutes les églises. De le répéter, puis de le répéter, puis il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète encore à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Tantôt, il disait, quand même, c'est un apôtre ou un ange de Dieu, l'annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Mais là, il dit, si quelqu'un, ça veut dire n'importe qui, même un nouveau qui commence à dire, parce qu'il est nouveau, mais il comprend pas, il est pas enraciné, on va dire, oh, mais il a pas fait exprès. Mais il rouvre la bouche puis enseigne des faussetés. Calme-toi, arrête ça. C'est grave. Tu peux pas te permettre d'enseigner n'importe quoi. Combien de personnes vont t'avoir écouté puis vont peut-être croire ce que tu as dit puis tu vas t'entraîner dans le péché? On peut pas. Peu importe qui ce qu'on est, peu importe comment ce qu'on s'appelle, Dieu veut pas qu'on répète des faussetés, des enseignements qui sont pas bibliques. Il veut qu'on reste fondé, inébranlable, dans ce qui a été déclaré par écrit, puis on encourt ces écrits-là, merci Seigneur, on encourt ces écrits-là à fin des temps. C'est pour ça qu'on voit qu'elle demeure éternellement, la Bible. Elle est encore là, ils ont tout fait pour essayer de la détruire, puis le Seigneur n'a pas permis. Et c'est le livre le plus vendu dans le monde.
Le plus beau livre.
Le plus beau livre. Mais c'est le livre aussi le plus donné, parce qu'il y a beaucoup de monde qui en donne.
Le livre le plus lu.
Le plus imprimé. C'est même ceux qui y croient pas le lisent. Par curiosité. Parce qu'ils sont intrigués. Il y a quatre choses dans ce livre-là qui attire, puis c'est ça que Jésus a dit, qui attirait les hommes à lui.
Dans les écoles protestantes,
là, ils enseignaient la Bible. Ben, ils enseignaient pas, mais on lisait la Bible. Même... Dans les églises protestantes, oui, mais pas dans les églises catholiques. Les églises catholiques, ils interdisaient de lire la Bible. T'as même pas le droit d'en avoir une chez vous, parce qu'il y avait une opposition. Aujourd'hui, ils sont comme neutres, puis ils essayent de dire, « Oh, on est tous frères, même les musulmans, puis les évangéliques, puis les catholiques, ils veulent faire la réunion qui réunit l'écuménique, qui réunit tout le monde. » Mais en réalité, pour y arriver, faut que tu laisses de côté la Bible, les dogmes. Puis encore plus fort que cela, ils vont dire que si tu t'attardes un peu trop à vouloir lire la Bible pour la mettre en pratique, ils te traitent de légaliste. Ça veut dire que c'est là qu'on voit la parole du Seigneur qui dit que le mal il est appelé bien, puis le bien est appelé mal. Ils vont dire que si tu veux trop mettre en pratique, ils vont te traiter de légaliste, puis en voulant dire mal à de côté, on est tous frères, puis il n'y a pas de différence entre nous. Tu vois, il approuve le fait de ne pas la mettre en pratique, mais il accuse puis il condamne ceux qui veulent la mettre en pratique. Mais t'es pas un légaliste quand tu veux mettre en pratique. T'es un disciple.
Amen.
Jésus a dit à ses disciples, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ça veut dire quoi, observer? Pas juste le regarder.
Non.
Ça veut dire de la mettre en pratique. L'observance de sa parole, ça veut dire que t'es pas un légaliste parce que tu veux la mettre en pratique. Si tu penses d'être sauvé parce que tu mets en pratique, ça, c'est pas correct. Là, t'es un légaliste quand tu penses de gagner ton ciel par tes actions. Nous, on croit que c'est le sacrifice de Jésus qui sauve, puis on croit que le fait de mettre en pratique, on veut démontrer qu'on a la foi qui sauve. Puis qu'on l'aime, puis qu'on veut demeurer en lui. Il y a tous des versets, puis ce que je vous dis là, ces trois termes-là, je les ai prêchés dans trois messages, là, à peu près 7-8 messages là-dessus. Moi, ceux qui veulent aller le lire, les écouter, aller dans l'étude sur les 10 commandements, la dernière série que j'ai commencée, les premières études, j'ai parlé de la foi qui sauve, puis on veut démontrer notre foi par nos œuvres. Faut jamais oublier que la foi sans les œuvres est vaine. Fait que ceux qui disent qu'ils croient, mais qui se disent on n'a pas à pratiquer aucune loi, c'est un mensonge du diable. Carrément. Parce que toute la Bible nous enseigne à obéir à sa parole. Amen. Là, au verset 9, il dit, on l'a dit précédemment, je le répète encore à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Peu importe notre position dans cette vie, si l'on prêche le contraire de ce que la Bible dit, nous en subirons des conséquences. C'est pas à cause que, oh, ben moi je suis le pape, je peux décider. Ou ben moi je suis l'archi-évêque, archi-je-sais-pas-quoi, puis là, lui, il se pense, puis qu'il veut changer les affaires, ou que ça soit même un surintendant des églises protestantes, peu importe qui ce que nous sommes, ou si on se dit, ben nos églises suivent le courant, la mode, puis on suit, on n'a pas le droit. Sortez de ces églises-là qui veulent pas mettre en pratique, puis aller en chercher une église qui veut mettre en pratique, puis d'arriver à être le plus conforme de ce que les disciples vivaient dans ce temps-là. Puis vous vous tromperez pas. Vous allez être des disciples de Jésus. Au niveau de dire que de prêcher, là, que peu importe qui ce que nous sommes, qu'on prêcherait autre chose, Jacques il dit au chapitre 3, le verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Des fois, quand tu es en position, tu es placé par les hommes, tu penses que tu peux te permettre n'importe quoi, tu peux pas. Puis si on est une église comme dans le temps biblique, mais comme l'église de Béry, il examinait chaque jour les Écritures pour savoir ce que si Paul, ce qu'il disait, il était exact. C'est ça qui devrait se passer. Qu'il y ait du monde assis d'un banc dans l'Église qui soit en train de lire le Bible pour aller checker si c'est vrai ce qu'il dit.
C'est un devoir.
C'est un devoir. C'est un modèle, un exemple de personne qui était sérieuse puis qui voulait pas se faire passer un sapin. On veut la vérité, ben c'est le devoir à tous d'aller vérifier. Sinon, c'est votre salut éternel que vous voulez mettre dans les mains d'un autre. C'est grave. On pourra pas dire, « Oh, mais Seigneur, le gars en avant, lui, il nous a dit ça, telle affaire. » Puis, l'as-tu lu ma Bible? Tu pourras pas dire, tu n'as pas, là, on l'a tous. C'est pas le gars en avant qui est responsable. Bien que Paul lui a dit à Timothée, veille sur toi-même puis sur ton enseignement. Il a dit, quand tu vas faire ça, là, il dit, tu vas te sauver toi-même puis tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Mais c'est quand même le devoir de ceux qui écoutent de vérifier ce qui est dit en avant, c'est vrai. Afin que vous, quand vous allez arriver en haut, mais vous allez avoir... vous allez avoir l'assurance que vous êtes dans le bon chemin. Amen. Faut pas se fier à ce qu'on entend. Faut aller vérifier. Au verset 9 puis au verset 8, il y a deux fois qu'il fait la déclaration qu'il soit anathème. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire d'être anathème, c'était le mot anathème ou imprécation. C'est une parole qui amène la condamnation ou la malédiction sur une personne. C'est tout ce qui est livré au malheur. Le point que nous on regarde, c'est sans espoir de rachat ou un animal destiné à être tué. Ça, c'est des exemples de ce mot-là. Une personne ou une chose qui est vouée à la destruction. Ou dévoué par interdit. Un homme maudit ou voué au malheur. Mais être anathème, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si on veut plus suivre ce qui est écrit là, tu tombes sur une malédiction dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose. Parce que le monde dit qu'il n'y en a pas de malédiction dans le Nouveau Testament. Je regrette. Suis pas l'Évangile, puis tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Il va y en avoir des malédictions. Il y a d'autres passages qui parlent d'être réprouvé. Réprouvé, ça veut dire pas passer le test. Quel test? Toute notre vie, on est en test. Le test de notre foi. Puis quand tu es réprouvé, c'est comme l'idée quand tu passes une chaîne de montage, puis que le gars ou la femme, il voit les poulets qui passent, puis il check un par un, tout le coup. Ah, oh, celui-là, il est mort, la viande est rendue noire, il le jette, il trie. Bon, celles qui passent sont approuvées, celles qui sont rejetées, c'est des réprouvés, des rejects. Ils n'ont pas passé le test. Ils sont jetés dehors. Mais Paul y en parle dans le Nouveau Testament qu'il y a des gens qui sont réprouvés. Puis ça, c'est ceux qui ont pas resté fidèles ou qui sont devenus anathèmes, dans d'autres mots. C'est tous des sens différents pour l'expliquer. On peut pas se permettre ça, frères et sœurs. Puis on voit ce mot-là, anathème, dans une autre phrase. Dans 1 Corinthiens 16, le verset 22. « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. » Ça veut dire que tu n'aimes pas le Seigneur, tu vas être anathème. Puis si tu n'aimes pas sa parole, tu ne la gardes pas telle qu'elle, tu vas être anathème aussi. Fait qu'aimer le Seigneur, c'est de garder sa parole. Amen. C'est ce qu'on veut faire.